Chapitre 2. Vers la fin de la journée du 23 août 1572, le gentilhomme, appelé La Mole, que le roi de Navarre attend avec impatience, arrive à Paris. Il a fait un long voyage et il est fatigué. Au bout d'un moment, il s'arrête devant une auberge. Son nom, à la Belle Étoile, lui plaît et il décide d'y entrer. Au même moment, un autre jeune homme s'arrête devant l'auberge, regarde un instant et décide lui aussi d'entrer. L'aubergiste leur dit que, n'ayant plus qu'une chambre, ils devront la partager. Paris est plein de gentilshommes venus pour le mariage et pour la guerre d'Espagne. Vous aurez bien du mal à trouver autre chose que ce que je vous propose. Bien, dit La Mole, cela ne me gêne pas. Et vous ? Puisque c'est la seule solution, acceptons, dit l'autre jeune homme. Je suis le comte Hannibal de Cocona, pour vous servir. Et moi, je suis le comte Hyacinthe de La Mole, votre humble serviteur. Et pendant que l'aubergiste leur prépare la chambre, les deux jeunes gens se mettent à bavarder. Je cherche le Louvre, dit La Mole. Vraiment ? Comme c'est curieux. Moi aussi, répond Cocona. Je dois rencontrer le duc de Guise le plus vite possible. Et vous aussi, sans doute. Moi, je suis chargé de voir le roi de Navarre ou l'amiral de Coligny, si le roi est absent. L'aubergiste, qui vient de descendre, entend cette dernière phrase et dit « Vous aurez du mal à le trouver après ce qui s'est passé. »« De qui parlez-vous et que s'est-il passé ?» demande La Mole. « De Coligny. Avant-hier, en sortant du Louvre, il a reçu un coup d'arquebuse. »« Et il est mort ?»« Non, mais il est gravement blessé au bras. » Cette nouvelle inquiète La Mole, et au lieu de dîner à l'auberge, comme il pensait le faire, il préfère se rendre au plus vite au Louvre. Il part. Peu après, le comte de Cocona sort à son tour de l'auberge. Une fois au Louvre, La Mole se demande comment il va faire parvenir son message au roi de Navarre, quand il voit sortir un groupe de cavaliers huguenots. Il s'avance vers eux et demande à celui qui semble être le chef s'il peut voir le roi de Navarre. « Qui êtes-vous ? » demande le chef des cavaliers. « Le comte de La Mole. « En effet, vous êtes attendu. Suivez-moi, je vais vous conduire jusqu'à l'appartement du roi. » Une fois devant la porte de l'appartement, l'homme dit à La Mole « Entrez, monsieur, on vous informera. » Et il s'en va. La Mole regarde autour de lui, appelle, mais il n'a pas de réponse. Les appartements du roi sont vides. Il ressort dans le couloir, espérant trouver quelqu'un, lorsque la porte qui se trouve en face de lui s'ouvre et laisse passer une jeune femme d'une grande beauté. En voyant le jeune homme, la femme s'arrête et lui demande « Que voulez-vous, monsieur ? Je cherche le roi de Navarre. Sa majesté n'est pas chez lui, mais si vous voulez, vous pouvez dire à la reine… Oui, bien sûr. Puis-je voir la reine ? Mais vous la voyez, monsieur. Comment ? S'écrie La Mole. « Je suis la reine de Navarre, » répond Margot en souriant. « Mais je vous en prie, monsieur, parlez vite, car je suis pressée. »« Oh, madame, pardonnez ma lenteur, mais votre vue m'a éblouie. Je suis le comte de La Mole, et je dois remettre une lettre à sa majesté. Le roi, mon mari, a en effet parlé de vous. Donnez-moi votre lettre, je la lui remettrai. » La Mole lui donne aussitôt la lettre qu'elle cache dans sa robe. « Et maintenant, monsieur, » dit-elle, « l'un de mes serviteurs vous conduira dehors. Revenez plus tard, on vous indiquera ce que vous devez faire. » En sortant du Louvre, La Mole rencontre par hasard Cocona. « Alors, avez-vous vu le roi ?» demande Cocona. « Pas encore. Et vous ? Avez-vous eu plus de chance avec le duc de Guise ?»« Eh bien non, mais je vais rentrer à l'auberge, j'attends un message. Venez donc, nous dînerons ensemble. » Pendant que Cocona et La Mole dînent à la Belle Étoile, le duc de Guise vient d'entrer chez Catherine de Médicis au Louvre. « Tout va mal, » dit le duc en refermant la porte. Catherine, surprise, lève la tête et lui demande « Que voulez-vous dire, Henri ?»« Je veux dire que le roi est plus que jamais fasciné par ces huguenots qui ne cessent de venir ici. Si cela continue, nous serons bientôt dominés par eux. »« Voyons, Henri, dites-moi exactement ce qui s'est passé. » dit Catherine d'un ton calme et froid. Je viens de lui demander si nous allons supporter longtemps les insultes que les huguenots nous adressent depuis la tentative d'assassinat contre l'amiral. Et savez-vous ce qu'il a répondu ? Il a répondu que l'on doit croire que je suis le responsable de l'attentat contre son père et que si les protestants sont un peu nerveux, c'est bien normal. Puis il s'est mis à donner à manger à ses chiens de chasse. Est-il seul chez lui ? Il est avec sa nourrice. Bien, suivez-moi. Catherine de Médicis, prenant un air préoccupé, entre chez Charles IX. « Mon fils, dit-elle d'une voix tremblante, qu'avez-vous, ma mère ? Vous ne semblez pas très bien. En effet, mon fils, et je viens te demander la permission de partir dans un de tes châteaux à la campagne, car je ne supporte plus d'être à Paris. Et pourquoi donc ? Dit Charles IX. Pourquoi ? Tu me demandes pourquoi ? L'entendez-vous, Guise ? Parce que chaque jour, je me sens insultée, menacée par tous ces huguenots, et que cette situation devient insupportable. Mais, mère, c'est assez normal. On vient d'essayer de tuer un de leurs chefs. Ne vous inquiétez pas, ils se calmeront. C'est ce que tu crois, mais c'est une erreur. Aujourd'hui, ils nous insultent et nous menacent, mais demain, ils passeront à l'action et se vengeront sur le duc de Guise, sur moi, sur toi. « Vous croyez ?» dit Charles IX qui commence à être inquiet. « J'en suis sûr !»« Mais alors, que faut-il faire ?»« Que fais-tu à la chasse quand un sanglier vient vers toi ?»« Je prépare mon épieu et je le lui plante dans le corps. »« Ainsi, l'animal ne peut plus te faire de mal. C'est bien cela. »« Oui, mère. »« Eh bien, avec eux, c'est pareil. »« Si tu ne fais pas comme avec le sanglier, ils te tueront. » Il faut vite te débarrasser de tes ennemis. Écoute ta mère, Charles. Elle a raison, dit le duc de Guise, et agis le plus vite possible. Oh, vous me fatiguez! Viens, Actéon, mon chien, viens te promener. Quant à toi, mon cousin, fais ce que tu veux. Je ne veux rien savoir. Et Charles IX sort. Le duc de Guise et la reine mère en profitent pour parler et réunir leurs hommes, pour agir cette nuit même. Mais le Louvre est une maison où les murs ont des oreilles. Henriette de Nevers, qui est au Louvre, apprend bientôt qu'il va se passer quelque chose. Elle se rend vite chez Margot et lui dit « Margot, je crois que cette nuit va être terrible. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer, mais je t'en supplie, reste chez toi. Moi-même, je vais vite rentrer chez moi. » Margot, apprenant cela, se rend discrètement chez le roi de Navarre. « Toi ici, Margot, quel plaisir de te voir !» dit Henri de Navarre d'un ton un peu ironique. « Henri, l'heure n'est pas à la plaisanterie. Un grand événement va se passer, je le sens, on me l'a dit. Ne sors pas ce soir, fais ce que je te dis. » Henri de Navarre comprend que Margot dit vrai et devient pâle. « Ce n'est pas tout, » ajoute Marguerite. « J'ai une lettre pour toi de Monsieur de la Mole. » « Donne, et merci, Margot. » Merci de ton aide. Et maintenant, je crois que nous devons nous retirer chacun chez soi et attendre la suite des événements. Il est 11h du soir. À la Belle Étoile, Cocona et la Mole, qui ont fini de dîner depuis un bon moment, bavardent tranquillement. « Je crois que je vais aller me coucher, » dit la Mole. « Le voyage a été long. Je veux me reposer un peu, car on viendra sûrement me donner des nouvelles cette nuit. » Eh bien, bonne nuit, monsieur de la Mole. Quant à moi, je vais rester un peu, car je crois que je vais bientôt recevoir un message. La Mole monte donc dans sa chambre, tandis que Cocona reste boire un verre de vin. Un moment plus tard, un homme au visage dur entre dans l'auberge, suivi de quelques hommes. Il regarde dans la salle, s'approche de Cocona et lui dit assez bas « Monsieur de Cocona ?»« En effet, mais qui êtes-vous ? » « Je m'appelle Maurevel et j'ai un message pour vous de la part du duc de Guise. »« Dites !» s'écrie Cocona fort intéressé. « Est-ce que je dois aller tout de suite au Louvre ?»« C'est là, en effet, que nous allons. Il y a une fête ce soir encore au Louvre. Mais cette fête n'est que pour les bons catholiques. Tous ces chiens d'huguenots n'y sont pas invités. »« Ou plutôt si !» dit Maurevel avec un sourire méchant. « Ils seront là et ils seront les héros. » Mais tout d'abord, allons inviter leur chef, ce cher amiral. Je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire, dit Cocona. Nous allons chercher l'amiral alors que cette fête n'est que pour les catholiques. Regardez dehors, monsieur, et vous comprendrez. Cocona jette un coup d'œil par la fenêtre et voit plein d'hommes à cheval et armés. Cette fête, c'est donc pour... Oui, pour tous les tuer, pour en finir avec eux. Par ordre du roi et de Monsieur de Guise. Allons, il ne faut pas perdre de temps. Partons chez l'amiral. Mais au fait, ajoute Maurevel d'une voix plus forte, j'espère qu'il n'y a pas dans cette auberge un de ces chiens protestants. Si, dit l'aubergiste. Là-haut, dans une chambre, il y en a un. N'est-ce pas, monsieur ? Dit-il à Cocona. Il faut le tuer, s'écrie Maurevel. Il ne doit plus en rester un seul. Et il monte l'escalier en courant, suivi de ses hommes et de Cocona. Au moment où ils arrivent à la porte de la chambre, plusieurs coups de feu éclatent dans la rue. On entend alors la Mole sauter de son lit et ouvrir la fenêtre. Maurevel ouvre aussitôt la porte. La Mole se retourne, comprend tout et saute par la fenêtre. « Un de moins !» dit Maurevel. Cocona s'avance, regarde par la fenêtre et s'écrie « Erreur ! Il se sauve par le toit ! Nous le retrouverons ! Vite, allons chez l'amiral, c'est le plus important !» Et ils partent tous en courant à travers les rues de Paris, déjà rouges de sang et pleines d'horribles cris de colère et de douleur. Ils arrivent enfin dans la maison de l'amiral. Des hommes se battent sur la place. D'autres essaient d'ouvrir la porte de la maison de l'amiral. Il y a des coups de feu partout. Tout à coup, un groupe de cavaliers arrive. « Le duc de Guise !» crie Maurevel. « Ha ha ! Coligny est mort !»« Mais !» s'écrie tout à coup Cocona. « Qui vois-je là-bas ? La Mole ! Ah, le chien ! Il est venu prévenir Coligny ! Tu ne m'échapperas pas !» dit-il en courant vers lui, suivi de plusieurs hommes. Cocona le rattrape et parvient à lui enfoncer un couteau dans le bras. La Mole tombe, se relève aussitôt, blesse de son épée plusieurs hommes et court, court comme un fou. Il ne veut qu'une chose, aller au Louvre et voir le roi de Navarre, le prévenir. « Tuez-le ! Tuez-le ! » crie Cocona qui court après lui avec plusieurs hommes. La Mole est couvert de sang et a très mal au bras, mais il court toujours. Il arrive au Louvre, réussit à passer à travers les coups de feu, échappe aux épées et parvient à se faire un chemin parmi les cadavres. Il entre dans le Louvre, monte le plus vite possible un escalier, reconnaît une porte et malgré sa douleur au bras, frappe. Il est temps. Cocona le suit de près. « Qui est là ? » dit tout bas une voix de femme. « Ouvrez, je vous en prie. Je meurs. Je veux voir le... roi de Navarre. » La porte s'ouvre aussitôt. La Mole entre et se trouve devant Margot. Il la regarde et lui dit « Madame, sauvez-moi !» Et il tombe évanoui. La porte s'ouvre à nouveau et plusieurs hommes, dont Cocona, essaient d'entrer. Alors Margot se précipite à la porte et dit d'une voix forte et calme « Que venez-vous faire ici ? Tuer une fille de France ? Sortez, je vous l'ordonne !» Les hommes, impressionnés, commencent à faire quelques pas en arrière. « Tuez-moi !» dit Margot. « Et non seulement vous serez fiers d'avoir assassiné des Huguenots, mais vous pourrez aussi vous vanter d'avoir tué une reine. » Mais tout ce bruit a attiré des soldats qui font fuir les assassins. Margot rentre vite dans ses appartements, ferme la porte à clé et appelle aussitôt sa servante. Ensemble, elles portent la Mole dans le cabinet qui se trouve à côté de la chambre de la reine de Navarre, le couchent sur un lit, et Margot, qui est une femme non seulement belle, mais fort cultivée, et qui connaît un peu la médecine, commence à le soigner. La Mole finit par ouvrir les yeux, il voit Margot penchée sur lui. « Que vous êtes belle !» dit-il. « Sauvez-moi ! Sauvez-moi !»« Vous êtes sauvée !» répond Margot. « Ne vous inquiétez pas, tout va bien. » Et maintenant, dormez. La Mole s'endort, c'est alors qu'on frappe à la porte. Margot se précipite dans sa chambre et dit « Qui est là ?»« C'est moi, la duchesse de Nevers. » Margot, qui a grande confiance en son amie, lui ouvre la porte. « Henriette, mais comment es-tu venue jusqu'ici ?»« Le duc de Guise m'a dit que je serais plus en sécurité au Louvre et il m'a fait conduire ici avec des gardes. J'ai vu le massacre. Les rues sont rouges de sang. » Je les ai vus se battre. C'est à la fois terrible et beau. Sais-tu, Margot ? Certains se battaient avec un tel courage. J'en ai vu un, par exemple, un catholique. Il était magnifique. Tais-toi, Henriette, tais-toi. Tout cela est horrible. Mais que t'est-il arrivé, Margot? Ta robe sous ton manteau est pleine de sang. Tais-toi encore une fois, Henriette. Viens. Et elle conduit son amie dans le cabinet où se trouve la Mole. Tu l'as sauvé, Margot? Demande Henriette. Tu as raison. Il est bien beau. Il est huguenot, mais peu importe. Il a l'air si charmant. Et elles sortent du cabinet. Henriette, maintenant qu'il dort, je veux savoir ce qui est arrivé au roi de Navarre. Tout est calme maintenant. Viens. Elles arrivent devant les appartements du roi de Navarre. Marguerite essaie d'entrer, mais des gardes l'en empêchent. On n'entre pas chez le roi de Navarre. Ordre de Sa Majesté Charles IX. C'est alors qu'arrive Charles IX. Charles, mon frère, pourquoi ne puis-je pas voir mon mari? Tu veux le voir? Eh bien, entre avec moi, car moi aussi je veux bavarder avec lui. Ils entrent tous les deux dans la chambre. Henri de Navarre, malgré la gravité des événements, semble calme. Bonsoir, Henriot, dit Charles IX. Tu es content de me voir? Oui, sire, je suis toujours content de voir Sa Majesté. Ne fais pas l'hypocrite. Tu sais très bien ce qui s'est passé ce soir et ce qui continue de se passer. Cette nuit, on me débarrasse de tous les huguenots, de tous, entends-tu? Il cesse de parler et met sa tête dans ses mains. Margot écoute sans rien dire. Ils doivent tous mourir, continue Charles IX. C'est ce que dit ma mère, c'est ce que dit le duc de Guise, car sinon, étant ennemis de ma religion, ils me tueront. C'est ce que tu veux faire, Henriot, me tuer? Sire, vous avez dit le jour de mes noces que vous donniez votre cœur à tous les protestants. Le jour de tes noces est passé, on n'en est plus là aujourd'hui. Tu dois mourir, à moins que... Quoi, sire? Dit Henri de Navarre. Que tu abjures. Non, sire, non, dit Henri. Margot, je t'en prie, dis-lui qu'il doit le faire. Tu es son allié, je le sais. Dis-lui que c'est la seule solution. Margot profite d'un moment où son frère a le dos tourné pour dire tout bas à Henri de Navarre. Fais-le. Rien ne sera perdu pour autant. Henri de Navarre finit par accepter. Une fois sortie de chez son mari, Margot retrouve Henriette et rentre vite chez elle voir son blessé. Mais en entrant dans le cabinet, elle voit qu'il a disparu. « Mon Dieu, Henriette, il est parti. Il faut le retrouver, je le veux. On ne peut pas sortir, tout est plus calme, mais on entend toujours des coups de feu. Je sortirai, m'entends-tu, Henriette ?» Et elle va chercher quelques serviteurs. Alors, suivie de son amie, elle marche dans les rues de Paris. Elle regarde, retourne tous les cadavres. Elle est capable de tout pour sauver l'homme qu'elle a décidé de sauver. Enfin, elles finissent par le trouver. Il est blessé à la poitrine et couché près d'un autre homme également blessé à la tête. « Mon Dieu !» s'écrie Henriette. « L'autre, c'est lui. C'est ce jeune homme courageux dont je te parlais avant. Sauve-le aussi, Margot. Je t'en prie. » La reine Margot les fait conduire dans une maison sûre et les fait soigner. Après ces horribles événements, le calme revient à Paris. Henri de Navarre abjure solennellement quelques jours plus tard, mais il continue cependant à être très surveillé. Margot, quant à elle, revoit souvent la Mole, dont elle est tombée amoureuse. La Mole n'a pas tardé à guérir et s'est occupée de Coconnat quand il était encore très mal. Une fois remis de ses blessures, Coconnat, apprenant que la Mole l'a soigné, devient son ami et décide de ne plus le quitter. La Mole doit maintenant réunir des protestants et chercher des renforts pour aider Henri de Navarre à fuir et à reconstituer le parti protestant. Il part. Catherine de Médicis, qui déteste Henri de Navarre, décide de le tuer.